Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30, temps universel, du lundi 10 juin 2019. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Nouveau massacre dans le centre du Mali, une attaque contre un village Dogon qui fait près de 100 morts.
Tout le village a été incendié selon une source locale et aussi du bétail emporté. C'est des hommes d'armée non identifiés.
Au Burkina Faso voisin, une attaque contre un marché à Arbindar dans la région du Sahel fait plusieurs victimes. Timide reprise des activités à Khartoum au deuxième jour d'un mouvement de désobéissance civile. Et le Mexique qui se dit prêt à rediscuter du droit d'asile avec Washington. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Le Mali, encore endeuillé par la mort d'une centaine de personnes suite à une attaque contre un village Dogon dans le centre du pays. L'attaque est survenue tôt ce matin. Le gouvernement annonce que des renforts sont actuellement déployés dans le secteur. Mamoudou Bokoum, notre correspondant à Mopti.
Un début de semaine ensanglanté dans la région de Mopti. Le village de Soban, dans la commune de Sanga, cercle de Banyagara, a été la cible d'attaques d'hommes armés non identifiés. Les assaillants ont fait irruption dans le village, tirant sur tous ceux qui y respirent. Le gouvernement du Mali, dans un communiqué, annonce 95 morts, 19 personnes portées disparues. À en croire certaines sources locales, on parle de plus de 100 morts, une vingtaine de blessés, des animaux emportés et des greniers brûlés. Selon le maire de la commune rurale de Sanga, le village compte 300 habitants, mais seuls 50 répondent à l'appel pour le moment. Cet acte odieux est survenu à 3h du matin, au moment où la population dormait. Et c'est le petit matin que les militaires basés à Bamba sont arrivés sur les lieux. Le gouverneur de la région, lui, est parti cet après-midi pour constater les dégâts. Toujours dans la région de Mopti, ce matin, un commerçant répondant au nom de Mohamed Silla Dipalili a été assassiné à Bandiagara. Les auteurs du crime sont venus à 5 motos, tous habillés en tenue traditionnelle d'Onzo selon des témoins sur place. Ils l'ont sorti de sa boutique pour l'abattre dans la rue entre 9h et 10h. Après leur forfait, ils ont disparu dans la nature. Il faut rappeler que depuis le début de l'année, le centre du Mali est devenu un véritable no man's land où on tue des gens par dizaines. Mamoudou Bokoum à Mopti pour VOA Afrique.
Et nous y reviendrons en partie magazine. Au Burkina Faso voisin, au moins 19 personnes ont été tuées hier soir lors d'une attaque menée par des hommes armés dans le nord. C'est la localité d'Arbindar qui est encore visée. Le point avec Jacques Aristide.
Ce sont des dizaines d'individus armés qui ont mené cet assaut, d'après un élu local qui ajoute que le groupe a ouvert le feu sur des habitants de la localité. Une source sécuritaire indique que 19 corps ont été retrouvés, les recherches se poursuivent. Il y a eu une réunion de crise aujourd'hui pour faire le point exact de la situation, selon cet élu local. Dimanche matin déjà, à Arbindar, 3 véhicules avaient été interceptés, puis incendiés et un chauffeur tué par des hommes armés. Cette commune rurale est située à 90 km de Djibo, chef-lieu de la province du Soum, dans le nord du Burkina Faso, en proie à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées par les autorités à des groupes djihadistes. Arbindar a enregistré une série d'attaques ces derniers mois, alors que les forces de défense et de sécurité mènent une grande opération antiterroriste dans la zone. Fin avril, 4 passagers dans un car reliant Dori à Arbindar ont été tués par des individus armés. Début avril, toujours à Arbindar, 62 personnes ont été tuées lors d'attaques suivies d'affrontements intercommunautaires.
Jacques Aristide, violence également au Nigeria où au moins 43 personnes ont été tuées dans plusieurs attaques contre des villages de l'état de Zamfara dans le nord du pays. Ces attaques ont été perpétrées au cours du week-end par des groupes armés qui sèment la terreur dans les campagnes selon des sources policières et locales. Au Bénin, des violences ont éclaté ce lundi à Tchaourou, la ville d'origine de l'ancien président Thomas Boniayi dans le nord du pays après l'arrestation de 2 personnes sur place. La police et l'armée sont intervenues et des engins blindés ont été déployés dans toute la commune. L'ancien président Boniayi est retranché depuis le 1er mai dans son domicile de Cotonou, dont les accès sont bloqués en permanence par des policiers en armes. Des partisans du nouveau président congolais Félix Tshisekedi ont manifesté près du Parlement leur colère à l'encontre des députés proches de l'ancien président Joseph Kabila. La police a fait usage de gaz lacrymogène. Les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social accusent des députés de la majorité parlementaire pro-Kabila d'outrage envers leur leader. Vendredi, les députés pro-Kabila du FCC, majoritaire au Parlement, avaient critiqué deux ordonnances de nomination signées par le président Tshisekedi. Un soldat camerounais a été tué, un autre kidnappé dans une attaque à Darak, dans la région de l'extrême nord. Une position de l'armée a été attaquée tôt ce matin par des éléments du groupe Boko Haram, selon des sources sécuritaires. Quatre soldats sont grièvement blessés, selon notre correspondant au Cameroun. La vie a timidement repris son cours ce lundi à Khartoum, au deuxième jour d'un mouvement de désobéissance civile lancé par la contestation soudanaise contre l'armée au pouvoir. Des morts ont également été signalés. John Lindon.
Selon le comité des médecins, quatre personnes ont été tuées dimanche, deux à Khartoum et deux autres à Omdurman, la ville jumelle de la capitale. Le conseil militaire au pouvoir avait annoncé dimanche soir le déploiement de renforts dans la capitale pour un retour à la vie normale. Ce lundi, de nombreux magasins, stations-service et quelques banques privées sont restés ouverts à Khartoum. Des bus publics ont circulé également dans la capitale avec plus de voitures et de passants que les jours précédents. Si je travaille, cela ne signifie pas que je ne soutiens pas la révolution, assure un chauffeur de bus. Je dois travailler pour soutenir ma famille, sinon nous n'aurions pas d'argent, ajoute-t-il. Le mouvement de désobéissance civile a été lancé après la sanglante répression lundi dernier. D'après un comité de médecins proche de la contestation, il y a eu 118 morts et plus de 500 blessés pendant la dispersion du sitting devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Le gouvernement estime, lui, à 61 le nombre de morts.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé pour un an l'embargo sur les armes pour la Libye. Une résolution en ce sens a été adoptée à l'unanimité des 15 membres du Conseil. L'Afrique du Sud, membre non permanent, a déploré que des armes continuent d'arriver en Libye par voie maritime et terrestre. Plusieurs pays se sont cependant félicités de l'opération militaire européenne Sophia de lutte contre les trafics d'armes et de pétrole en Libye.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Mexique s'est dit prêt à rediscuter du droit d'asile avec Washington si le flux de migrants illégaux se rendant aux États-Unis ne cesse pas. Le point avec Eric Manerekiza.
Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a indiqué que son pays avait refusé l'exigence américaine pour que les migrants présents sur le territoire mexicain et souhaitant demander l'asile aux États-Unis le fassent au Mexique. Les représentants mexicains ont toutefois accepté de rediscuter de cette question dans un délai de 45 jours. Vendredi soir, à l'issue de plusieurs jours de négociations ardues, Washington et Mexico ont conclu un accord sur l'immigration comme le souhaitait le président Trump, qui menaçait d'imposer les droits de douane sur tous les produits importés du Mexique. Cet accord prévoit notamment le déploiement de la garde nationale mexicaine, ainsi que des actions contre les réseaux de passeurs, de transport et de financement de l'immigration clandestine. Dans un tweet, le président Donald Trump a indiqué qu'une partie de l'accord nécessiterait l'approbation du Congrès mexicain et que, si pour une raison quelconque elle n'est pas approuvée, les tarifs seront imposés.
Le président américain Donald Trump, qui a confirmé ce lundi qu'en tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping était bien prévu à la fin de ce mois. Ce sera à Osaka, en marge du sommet du G20. Une rencontre entre nous est prévue. Je pense que Xi Jinping se rendra sur place, a déclaré Donald Trump. J'ai d'excellentes relations avec lui. C'est un type incroyable, a-t-il ajouté, alors que les États-Unis et la Chine sont engagés dans une guerre commerciale. La Cour suprême des États-Unis a validé ce lundi le maintien en détention d'un yéménite prisonnier depuis 17 ans de la base militaire de Guantanamo et qui n'a jamais été inculpé ou jugé. La Cour a refusé de se saisir d'un recours déposé par Mouad al-Alwi, arrêté à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan en décembre 2001 et transféré à Guantanamo. Le yéménite était soupçonné d'avoir été en garde du corps de Osama Ben Laden, ce qu'il nie. La première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a accusé la Birmanie d'être responsable des retards dans le rapatriement des Rohingyas, l'accusant de ne pas vouloir reprendre ses réfugiés. Quelques 740 000 Rohingyas ont trouvé refuge dans des camps surpeuplés au Bangladesh suite à une répression brutale de l'armée birmane en août 2017. Beaucoup d'entre eux craignent pour leur sécurité en cas de retour en Birmanie. Cette minorité musulmane est confrontée à des persécutions depuis plusieurs décennies. Et puis l'ancien président pakistanais Asif Ali Zardari a été écroué ce lundi après le rejet d'une demande de mise en liberté. Il est accusé d'avoir détourné et blanchi de fortes sommes d'argent à l'extérieur du pays. M. Zardari est le veuf de l'ex-premier ministre Benazir Bhutto. Il a dirigé le pays de 2008 à 2013. Il a été interpellé dans sa résidence de la capitale pakistanaise. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Nanit Talani qui nous présente la Minute Éco.
En RDC, New Aid vient de signer avec Lukoil Upstream Congo un accord de vente de ses 25% de participation sur le bloc pétrolier marine 12 opéré par l'Italien Eni. La transaction représente 800 millions de dollars et est soumise aux conditions d'usage et à l'approbation du gouvernement congolais. Le bloc marine 12 est un périmètre qui inclut les trois découvertes de pétrole et de gaz, Litchendili, Néné Marine et Minsala. Le gouvernement éthiopien a conclu avec l'Agence française de développement un accord de près de 85 millions d'euros. Cet accord vise à financer le second plan de développement économique de l'Éthiopie qui couvre la période 2015-2020. La ligne de crédit sera accompagnée d'une subvention de 15 millions d'euros de l'institution financière française. Et pour terminer, le royaume d'Eswatini a lancé un appel d'offres pour la construction d'une centrale électrique d'une capacité de production d'énergie solaire de 40 MW en vue de stimuler les investissements étrangers et de réduire sa dépendance vis-à-vis d'Eskom, la société électrique sud-africaine actuellement en difficulté. Le gouvernement prévoit d'étendre la production d'énergie hydroélectrique à partir du projet de barrage de Magouga. À compter de juin de cette année, la société aura également accès à 10 MW supplémentaires provenant d'une centrale solaire située au sud-est d'Eswatini. Et le pays veut produire 100% de sa propre puissance d'ici 2034.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
Football féminin pour commencer avec le Mondial France 2019. Mauvais départ pour les Africaines.
Oui, les Nigérianes, championnes d'Afrique en titre, ont plié les Chines devant la Norvège 3-0. L'Afrique du Sud, pour le premier match de son histoire à la Coupe du Monde féminine, a été renversée 3-1 par l'Espagne. Le Cameroun, dernier représentant africain joue ce soir et veut faire mieux face au Canada.
La CAN en Égypte, c'est dans 11 jours et les sélections s'activent.
Pour son premier match de préparation, la République démocratique du Congo a enregistré un match nul 0-0 devant le Burkina Faso. Le Cameroun et le Ghana ont aussi joué hier. Les Lions indomptables tenant du titre se sont inclinés 2-1 face à la Zambie. Les Black Stars de leur côté ont été battus par la Namibie 1-0. Le Bénin joue aujourd'hui face à la Mauritanie et l'Algérie affronte le Burundi.
Le Nigeria, lui, a publié sa liste définitive des joueurs retenus.
Oui, les Super Eagles iront à la CAN sans Kelechi Iheanacho. L'attaquant de Leicester, auteur de 30 matchs et un but cette saison avec les Foxes, n'a pas été retenu par le sélectionneur Gernot Rohr. Par contre, John Obi Mikel, Ahmed Moussa et Alex Iwobi ont été appelés, tout comme le Bordelais Samuel Kalou. En Égypte, le Nigeria évoluera dans le groupe B avec la Guinée, Madagascar et le Burundi.
NBA pour terminer, Toronto pourrait être sacré champion dès ce soir.
Les Raptors disputent à domicile à 21h locale, 1h temps universel, le match qui peut leur offrir leur premier titre de champion NBA face à Golden State. La franchise canadienne mène 3-1 pour le site spécialisé dans les sondages sportifs. 538, Golden State n'a plus que 11% de chances pour renverser une situation hautement compromise. Un joueur peut être d'un grand apport, Kevin Durant, le meilleur marqueur des Warriors, 34,2 points par match de playoff, n'a plus joué depuis un mois à cause d'une blessure à un mollet. Il s'est entraîné avec le groupe hier, la première fois depuis sa blessure, et pourrait fouler le plateau de Toronto ce soir.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour dans le centre du Mali. Une centaine de morts, des maisons incendiées, des animaux abattus. Un village d'Ogon a été quasiment rasé lors d'une attaque dans la nuit de dimanche à lundi. Celle-ci intervient après le massacre le 23 mars de quelques 160 peuls par de présumés chasseurs d'Ogon dans cette région proche de la frontière avec le Burkina Faso. Idriss Fall a joint tout à l'heure notre confrère Oumar Guindo, basé à Bandiagara, qui s'est rendu sur place.
Ok, présentement je me trouve dans les hameaux de Soban, dans la commune de Sanga, donc où il y a eu en tout cas cette attaque barbare de la part des individus non identifiés.
Pouvez-vous décrire ce que vous voyez dans ce hameau?
Voilà, effectivement, nous venons d'arriver tout de suite, il est environ 17h comme ça, c'est la délégation du gouverneur de la région de Mopti, le général de division Sidi Alassane Touré qui conduit cette délégation. Nous venons d'arriver sur place, sur les lieux, en train de faire le constat des dégâts. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, le bilan est lourd, et même très lourd. Il s'agit de la mort de plus de 100 personnes ici dans ces hameaux d'Ogon, où les assaillants n'ont épargné personne, les enceintes, les enfants, les vieilles personnes, tout le monde, ils ont tué au total, c'est plus de 100 morts dans ces hameaux-là d'Ogon. Alors, pour le moment, jusqu'à présent, on ne pourra pas établir un bilan normal. Ça, c'est selon la source locale qui se trouve sur place, qui nous a donné, qui nous a confirmé cette information. Pour le moment, le gouverneur est en train de procéder quand même au constat quand même des dégâts. Nous constatons aussi ici que plusieurs maisons sont brûlées, incendiées, et des hangars, je vois aussi quelques animaux calcinés, donc en train de traîner par-ci, par-là. Donc, pour le moment, c'est la désolation totale dans ces villages-là, dans ces hameaux, j'allais dire.
Et il n'y a même pas de survivants?
Bon, d'après ce qu'on a vu, tout de suite, quand on est rentré dans une chambre, il y avait 32 personnes dans la chambre. À part des enfants qui ont pu échapper, tous les restes, en tout cas, sont décédés dans cette chambre-là. Ils sont juste à faire les corps, se trouvent dans la chambre, 30 personnes, tout de suite que je constate. En tout cas, il y a eu quelques rescapés. Peut-être au moins une dizaine qu'on s'est rescapé dans ce village.
Mais est-ce qu'on a une idée plus précise de combien de personnes ont mené cette attaque?
Bon, peut-être ils sont venus un peu par groupe. D'après les informations reçues, d'abord ils sont venus à bord de 6 motos pour encercler le village. Ensuite, d'autres personnes sont venues s'ajouter à eux sous forme de renfort pour commettre vraiment ces forfaits-là. En tout cas, pour le moment, le gouverneur est avec toute sa délégation accompagnée des forces de sécurité et de défense.
Et les assaillants ont pu, après leur forfait, aussi prendre le large, s'enfuir, si j'ose dire.
Oui, ouais, après le forfait, quand même, ils ont disparu dans la nature.
Voilà, c'était le journaliste Oumar Guindo, journaliste à Bandiagara, avec son témoignage à chaud.
Jacques Aristide avec vous. À votre avis, ce lundi, à 18h05 sur VOA Afrique, êtes-vous confronté aux litiges concernant les terres? Que pensez-vous des conflits fonciers, tant dans les régions rurales qu'urbaines? Quels sont les recours et arbitrages en cas de perte de votre propriété? Laissez-nous vos numéros de téléphone et commentaires, ou appelez-nous en direct au 001-202-205-43-93. À tout à l'heure.
Au Soudan, les meneurs de la contestation civile ont appelé à la désobéissance civile et à une grève générale qui a débuté hier. Une action de protestation contre les militaires putschistes au pouvoir, accusés d'être responsables du bain de sang du 3 juin, la dispersion violente du sit-in devant le siège de l'armée à Khartoum et la répression qui a suivi a fait plus d'une centaine de morts. Les contestataires continuent de réclamer un partage du pouvoir avec les civils pendant la période de transition. Hier, au moins 4 personnes ont été tuées dans la capitale par les forces de sécurité. Reportage sur place, Patricia Huon.
C'est une deuxième journée ville morte à Khartoum. Les meneurs de la contestation civile ont appelé à une grève générale à partir de dimanche et le mot d'ordre est largement suivi. Aujourd'hui, dans les rues, une légère reprise d'activité. Mais presque tous les commerces restent fermés, à de rares exceptions près, comme de petits magasins d'alimentation ou cette boulangerie.
Les gens doivent se lever. Et moi aussi, personnellement, j'ai besoin de mon salaire. Je suis payé à la journée. Mais si les gens veulent faire grève, je les soutiens.
Dans la capitale soudanaise, beaucoup survivent au jour le jour. Pour eux, une journée sans travailler, c'est une journée sans salaire, parfois sans manger. Combien de temps le mouvement de grève peut-il tenir dans ces conditions? Devant un rare supermarché ouvert, une femme évoque la difficulté de ravitailler sa famille.
Ce n'est pas facile de faire des provisions en ce moment. Tout est fermé et les prix restent très élevés. J'ai pu acheter de quoi tenir une semaine, mais après, je ne sais pas ce qu'il va se passer.
Dans les rues, l'armée est toujours bien visible. Tout comme les paramilitaires, des forces de soutien rapide, accusées du massacre du 3 juin devant le quartier général de l'armée. La répression de la protestation se poursuit. Hier matin, des jeunes s'étaient rassemblés autour de barricades faites de briques et de branchages, érigées dans les ruelles de plusieurs quartiers. Selon des témoins, la police a ouvert le feu. Un jeune homme a été abattu.
Ils avaient commencé à placer des pierres sur la route pour faire une barricade. Ils n'étaient pas armés, mais la police est venue avec des armes. Elle a tiré. C'était intentionnel. La balle a atteint ici, sous la tête. C'est terriblement triste.
Beaucoup d'habitants restent cloîtrés chez eux par prudence. L'immense majorité continue de prôner une résistance pacifique, mais certains ne contiennent plus leur colère.
Il y a déjà eu un massacre. Ils violent des femmes, ils tuent des enfants. Ce n'est pas un combat égal. Ils ont le soutien de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes. Tout ce que j'ai à dire au monde, c'est donnez-nous des armes. Tous ceux qui sont ici savent se servir d'une arme. Ce qui se passe ici n'a rien de pacifique.
C'est un bras de fer inégal qui se joue entre civils et militaires. Pour l'instant, peu de signes laissent présager une possible reprise des discussions. Patricia Huon, Khartoum, pour VOA Afrique.
Au Cameroun, les défis du foncier préoccupent les jeunes chercheurs. Les statistiques des organismes de la société civile montrent que plus de la moitié des audiences en justice concernent les litiges fonciers. Une vingtaine de jeunes chercheurs, francophones et anglophones, viennent d'achever une session spéciale de formation et de renforcement de leurs capacités sur le sujet. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap.
Ces jeunes chercheurs ont formé un groupe nommé les experts fonciers du Cameroun. Ils travaillent sur l'accès à la terre au Cameroun et les conflits qui en découlent.
Mon thème porte sur l'accès des femmes rurales à la propriété foncière, car je village Bagom dans le département Junou.
Aude Passman Diamkoudé est étudiante en master géographie à l'université de Yaoundé 1. Ses recherches sur le foncier concernent un village de la région de l'Ouest.
C'est un village sorti des convoitises. C'est une mamelle nourricière. Au niveau de la richesse de cette terre, pour cela, il y a des conflits fonciers. Ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Alors que ce sont elles qui utilisent plus cette terre pour faire des cultures. Malheureusement, en tant qu'utilisatrices, pas propriétaires, elles ne peuvent pas posséder cette terre.
Dans la région du sud-ouest en zone anglophone, l'on a enregistré dès 2013 l'un des plus importants conflits fonciers du Cameroun. Les populations locales se sont soulevées contre l'implantation de l'agro-industriel Heracles Farms, accusé d'exploitation illégale du bois après accaparement des terres. La société avait pourtant obtenu de l'État une surface de 70 000 hectares pour la production d'huile de palme. Linda Ndouanla, étudiante en master, à côtoyer les riverains de ce projet.
The government has put in place policies and laws which are not necessarily advantageous or adapted to the population. Like the population have their own customs, traditions with regards to land issues, which is very different from what the government says. So on the field, there's no meeting point.
Avec les experts fonciers du demain, la société civile espère une meilleure appropriation des enjeux. Samuel Ngifo, secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement.
La complexité du foncier ne peut être atténuée que par le recours à des disciplines différentes. Dans notre système éducatif, on est habitué au cloisonnement. On arrive difficilement à formuler une législation qui corresponde aux attentes de tous les acteurs. Ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est de montrer à des jeunes qui se sont intéressés déjà à la question foncière, c'est de leur dire c'est très utile d'étudier le foncier du point de vue de votre discipline, mais c'est encore plus utile de comprendre qu'il y a d'autres disciplines qui s'intéressent au foncier et qui peuvent éclairer votre compréhension du foncier à partir de votre discipline.
un complément de formation apprécié par les jeunes chercheurs réunis à Yaoundé.
C'est vraiment une science très riche. Ça nous a permis de comprendre que la question foncière n'est pas seulement un problème géographique.
Nous avons des disciplines comme l'anthropologie, la sociologie, la loi foncière aussi est très importante et doit être considérée pour avoir une approche effective et solutionner la question foncière au Cameroun.
Yaoundé, Emmanuel Jelouta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Guinée, le débat sur un projet de révision constitutionnelle fait rage. Le gouvernement a récemment apporté son soutien à ce projet. Ceci alors que le second mandat du président Alpha Condé se termine en 2020. Le point à Conakry avec notre correspondant sur place, Zakaria Kamara.
Parmi les 20 personnalités citées par le Front National pour la Défense de la Constitution, il y a les noms des amis au président Alpha Condé qui font réagir le parti au pouvoir. La mouvance présidentielle regrette la mise en cause d'Albert Bourgi ou encore de Maître Boukouta Diallo, entre autres. Plusieurs ministres guinéens sont visés par cette publication que le ministre du Budget lui-même a cité qualifie de plaisanterie. Ismaël Djoubaté.
Moi, je considère ça comme des plaisantins. Vous voulez la démocratie et vous posez des actes antidémocratiques. Chacun est libre de dire oui, je veux une constitution ou non, je ne veux pas une constitution. Ce n'est pas un crime, c'est un jeu démocratique. Moi, ce n'est pas une liste qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le projet de société du président Alpha Condé qui, pour l'essentiel, satisfait aujourd'hui le peuple de Guinée. Ceux qui prétendent que le peuple est avec eux, alors on peut aller au référendum.
Le référendum qu'on veut proposer aux Guinéens sonne dans le camp des opposants comme un frein à l'alternance démocratique en 2020 en Guinée. Composé d'activistes, de partis politiques et des organisations de la société civile, le FNTC entend mener des actions pour éteindre toute velléité de changement constitutionnel. Abdourah Mansano, coordinateur.
La publication des photos des ennemis de la Guinée se poursuivra pour que les responsabilités des uns et des autres soient situées en temps opportun. Aucune manœuvre dilatoire ne saurait détourner le FNDC des objectifs fixés au service de la défense des intérêts du peuple.
Pour Sidi Touré, ancien premier ministre et opposant au régime d'Alpha Condé, il n'y a aucune opportunité de changer la constitution guinéenne. Le président de l'UFR insiste à son tour sur la nécessité d'une alternance en 2020.
La totalité de nos compatriotes aujourd'hui vit dans la misère absolue. C'est quelque chose qui est un devoir sacré pour nous tous de faire en sorte que le changement arrive rapidement ici et cela le plus tard possible, c'est la fin du mandat en 2020.
L'actuelle constitution a été établie sans référendum en 2010. Le RPG arc-en-ciel parti au pouvoir se défend qu'il est temps de laisser le peuple décider. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique et je vous dis comme d'hab, God bless, peace out.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la console Adrius Regis, présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes.
Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.